Aujourd'hui, nous recevons Geneviève Vinet. Geneviève Vinet est juriste, spécialiste de droit civil. Elle est professeure à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du Centre de recherche en droit privé de l'Université de Paris 1 et responsable du DEA de droit privé de l'Université de Paris 1. Parmi ses publications, elle a publié de nombreux articles dans des revues comme La Semaine juridique, la revue trimestrielle du droit civil, mais elle a aussi écrit un certain nombre d'ouvrages. Le déclin de la responsabilité individuelle aux éditions LGDJ en 1965. Elle a collaboré au traité de droit civil dirigé par Guestin aux éditions LGDJ. Introduction à la responsabilité en deuxième édition en 1995. Les conditions de la responsabilité, deuxième édition 1998, les effets de la responsabilité, deuxième édition 2000. Enfin, un dernier ouvrage que je mentionnerai, qui est Le principe de précaution, rapport au Premier ministre, qui est publié chez Audi Jacob, qu'elle a écrit en collaboration avec Philippe Kourilski, qui est un autre intervenant que vous pourrez retrouver le jeudi 23 mars sur l'immunologie. Madame Vinet, donc, je vous laisse la parole pour 50 minutes. Je vous remercie.
Je vous remercie. Donc, je vais vous parler pendant 50 minutes de la responsabilité et de ses transformations. En l'an 2000, le mot responsabilité est d'un usage si constant, si quotidien, si universel, que l'on a la peine à croire qu'il ait été possible de s'en passer et qu'il ne remonte pas au fond des âges. Et pourtant, ce mot est relativement récent. Il n'a en effet été officiellement admis dans la langue française par l'Académie, qu'en 1798, et c'est seulement une vingtaine d'années auparavant qu'il est apparu presque simultanément des deux côtés de l'Atlantique, sous la plume d'hommes politiques, Alexandre Hamilton et Necker, qui l'ont tous deux appliqué à la responsabilité du gouvernement. Cependant, si dans sa forme actuelle le mot est récent, ses racines sont en revanche fort anciennes. Et elle situe clairement ses origines dans le domaine du droit. En effet, le mot latin « sponsio », qui signifie « promesse solennelle », est lui-même un décalque du mot grec « sponde », qui avait la même signification. Il est employé couramment par Cicéron dans ses plaidoiries, ainsi que le verbe « spondere », « promettre », les substantifs « sponsor », « répondant », « caution », « sponsum », « chose promise », « sponsus », « engagement ». Quant au responsor, c'est celui qui, par un second échange de paroles, cautionne une dette antérieure. C'est celui qui fait, en quelque sorte, une seconde sponsio. D'où le sens initial du verbe respondere, se tenir garant, se porter caution. Toutes ces expressions appartiennent donc bien au langage du droit, mais elles ne renvoient nullement à ce que nous appelons aujourd'hui la responsabilité, les institutions de droit moderne, qui dérivent de la sponsio, sont essentiellement le cautionnement et, plus indirectement, l'assurance de dette. En revanche, la sponsio n'a rien à voir ni avec la faute, ni avec le dommage, ni avec la peine, ni avec la réparation. Pourtant, dès l'époque classique du droit romain, le verbe respondere n'appartenait plus vraiment uniquement au langage juridique. Il était entré dans le langage courant pour désigner le fait de répondre non seulement à une citation en justice ou à une demande de consultation juridique, mais aussi à une demande quelconque. Et cette signification, que l'on retrouve dans les substantifs responsio, responsum, oriente déjà le mot vers l'idée d'un face-à-face, d'une réaction à un appel. On n'en est pas moins encore très loin de la notion moderne d'une responsabilité liée à un acte ou à une conduite dont il est rendu compte, et a fortiori à un mal auquel il est porté remède. En fait, pour que cette nouvelle signification apparaisse, il faudra attendre l'adjonction du suffixe « able », or celle-ci n'interviendra que plus d'un millénaire plus tard, dans un tout autre monde, puisqu'il s'agit de la France chrétienne de la fin du XIIIe siècle. Mais ce qui mérite d'être souligné surtout, c'est que la construction du mot « responsable » au XIIIe, XIVe siècle n'a très probablement pas été l'œuvre des juristes et qu'elle n'a en tout cas pas été réalisée à l'intention du droit et pour l'usage du droit. Elle est d'ailleurs intervenue à une époque où le droit avait perdu sa primauté et même son autonomie, car il était devenu une annexe de la morale, une sorte de traduction de la morale à l'usage des relations sociales. C'est ce que Michel Villet a souligné avec force en dénonçant ce qu'il a appelé la captation du mot « responsable » par le langage de la morale. Or, cette empreinte morale a été forte et durable, puisque la morale chrétienne, qui définit le responsable comme celui qui répond devant Dieu de sa vie et de ses actes, l'a léguée à la morale laïque, notamment à celle qui a inspiré l'école du droit naturel, pour qui le responsable est celui qui répond devant sa conscience, parce que dans cette conscience est inscrite une loi morale conforme à la nature et à la raison. Et c'est précisément ce détour par le langage de la morale qui explique que lorsque le mot responsable sera repris par les juristes pour être réintégré au langage du droit, il aura acquis une consonance qui n'évoque presque plus rien de ses origines romaines. Le responsable sera alors celui qui doit répondre, cette fois devant les tribunaux, des conséquences de ses actes et plus précisément de ses fautes. Mais répondre de quelle façon ? Dans l'optique contemporaine, il semble évident de distinguer entre la responsabilité civile, qui tend à assurer la réparation des dommages au profit des victimes, et la responsabilité pénale, qui se propose de réprimer, au nom de la société, les infractions troublant l'ordre social. Cette distinction est en effet universellement admise aujourd'hui par tous les droits positifs. Pourtant, elle ne s'est pas imposée d'emblée. À Rome, la responsabilité civile, ou ce qui lui correspond, semble n'avoir jamais été parfaitement distinguée de la répression pénale. Sans doute, dès l'époque des 12 tables, distinguait-on les délits privés des délits publics, mais la seule différence entre eux consistait en ce que la victime d'un délit privé avait le droit de déclencher la répression, alors que pour les délits publics, cette prérogative était réservée aux représentants de l'autorité étatique. En revanche, à l'époque classique, sont apparues à côté des actions pénales, des actions qu'on a appelées rei persécutoires, qui ressemblaient à l'action en dommages et intérêts et qui ouvraient donc la voie à une véritable autonomie de ce qu'on appellera plus tard la responsabilité civile. Cependant, celle-ci ne fut jamais pleinement réalisée, car à la fin de l'époque classique, et surtout au Bas-Empire, les actions pénales et les actions rei persécutoires eurent à nouveau tendance à se confondre pour donner naissance à des actions mixtes. Quant à la tradition germanique, qui a principalement inspiré les coutumes de l'ancienne France, au moins jusqu'à la réception du droit romain, elle ignorait la distinction entre le civil et le pénal. Les lois barbares, en vigueur à l'époque franque, édictaient en effet des tarifs de composition en indiquant pour chaque type d'infraction la somme dont devait se contenter la victime. Mais cette composition jouait le double rôle de peine et de réparation. C'était le prix de la renonciation à la vengeance qui s'exerçait primitivement sous la forme d'une vendetta entre la famille de la victime et celle de l'auteur du délit. En France, c'est semble-t-il à partir de la seconde moitié du XIe siècle que la distinction romaine des actions pénales et des actions rei persécutoires commença à être connue et à orienter le droit coutumier vers l'admission d'une séparation entre action civile et action pénale ou action publique. Cependant, jusqu'à la fin de notre ancien droit, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la Révolution française, l'autonomie de l'action civile par rapport à l'action publique est restée imparfaite et relative. En effet, la procédure accusatoire que suivirent longtemps les cours laïques ne pouvait être déclenchée qu'à l'initiative de la victime. C'est donc seulement lorsque le système inquisitoire, imité des juridictions ecclésiastiques, fut généralisé, que l'on vit apparaître des magistrats chargés d'exercer des poursuites au nom de l'autorité royale ou seigneuriale, ce qui permit l'apparition d'une véritable action publique au sens moderne. Mais même lorsque celle-ci fut ancrée dans les mœurs judiciaires, la victime conserva le droit de déclencher l'action publique, à telle enseigne que l'ordonnance de 1670 place encore la victime, la partie civile donc, avant le ministère public lorsqu'elle désigne les personnes habilitées à exercer les poursuites pénales. S'il y a point de partie civile, les procès seront poursuivis à la diligence et sous le nom de nos procureurs ou des procureurs de justice seigneuriale. Cette situation se maintint jusqu'à la Révolution. C'est en effet seulement en 1795 que l'existence d'une véritable action civile, distincte de l'action publique, fut consacrée par le Code des délits et des peines, dit Code de Brumaire. L'article 5 de ce Code disposait en effet « L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social », tandis que l'article 6 était libellé en ces termes « L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé ». L'autonomie de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale était ainsi acquise. Elle fut ensuite confirmée et accentuée par la codification napoléonienne et elle n'a jamais, par la suite, été remise en cause. Toutefois, cette autonomie n'exclut pas toute parenté. La responsabilité juridique présente en effet certains traits généraux que l'on retrouve dans ces deux composantes et qui s'évincent du mot lui-même. Responsabilité évoque en effet réponse. Or, la réponse postule d'abord une demande, un appel. Vu du côté de ses origines, de ses causes, c'est-à-dire du passé, la responsabilité est donc un appel à répondre. Mais la réponse elle-même se détache de l'appel. Elle a une existence autonome qui est tournée vers l'avenir. Vu du côté de ses finalités, la responsabilité est donc cette réponse elle-même, c'est-à-dire la réaction du droit au fait qui a provoqué l'appel. Envisageons d'abord la responsabilité du côté de ses causes, c'est-à-dire l'appel ou la vocation à répondre. L'apparition d'une responsabilité implique d'abord la constatation d'un fait exigeant une réponse du droit. Mais elle implique également l'existence d'un sujet auquel cet appel est adressé en raison de sa participation à ce fait. Le fait qui exige une réponse, une réaction du droit, est celui qui crée un désordre, une injustice, un trouble social. Or, cette perturbation de l'ordre social peut provenir de deux types de causes bien différentes. Il peut s'agir soit d'un dommage, c'est-à-dire d'une atteinte à des intérêts individuels ou collectifs, qui paraissent mériter la protection du droit, soit d'un comportement illicite, d'une infraction aux règles de la vie sociale, autrement dit d'un fait de l'homme appelant une certaine réprobation. À vrai dire, les différents systèmes de responsabilité juridique, qu'elles soient civiles ou pénales, ont toujours fait une certaine place à ces deux catégories de causes du trouble social. Toutefois, depuis qu'elle a été clairement distinguée de la responsabilité civile, la répression pénale a nettement privilégié la seconde catégorie de troubles, ce qui était d'ailleurs prévisible étant donné l'objectif qui est assigné au droit pénal. En revanche, pour la responsabilité civile à but indemnitaire, la question est beaucoup plus discutable et les droits positifs sont beaucoup plus partagés. Certains de ces droits ont nettement et depuis longtemps fait prévaloir la notion de dommage, de préjudice, de tort, qui est présentée comme la cause première du droit à réparation, le comportement du sujet n'étant qu'un élément secondaire qui intervient parfois, mais non pas toujours, pour provoquer la naissance du droit à réparation. C'est la position de principe de la common law anglaise et de tous les droits qu'elle a influencés. En revanche, les droits continentaux ont opté pour la position inverse. En particulier, le droit français, tel qu'il était exprimé par le Code civil de 1804, ou plutôt tel qu'il a été forgé à partir des textes de ce code par ses premiers interprètes, a posé en principe que la seule véritable cause de responsabilité, c'est la faute, c'est-à-dire le type même de comportement humain illicite ou contraire à l'ordre social. Cependant, cette emprise de la faute sur le droit de la responsabilité civile, qui s'est maintenue et qui s'est même renforcée, semble-t-il, dans les deux premiers tiers, au cours des deux premiers tiers du XIXe siècle, s'est vue brusquement contestée à partir des années 1870-1880, non pas d'ailleurs pour des raisons théoriques, mais tout simplement parce qu'elle aboutissait à des résultats qui sont très vite apparus gravement injustes, en barrant la route aux demandes d'indemnisation des victimes d'accidents, comme les accidents du travail et les accidents du transport, qui ont commencé à se multiplier à cette époque. En effet, pour ce type d'accident, on s'est rapidement rendu compte que la preuve d'une faute subjective individuelle de l'employeur ou du transporteur était, dans la plupart des cas, totalement impossible. Or, étant donné qu'il n'existait pas à l'époque la moindre protection sociale, le refus d'indemnisation avait pour conséquence de plonger les victimes et souvent leurs familles dans la misère, résultat auquel les juristes les plus lucides ont rapidement compris qu'ils ne pouvaient pas se résigner. C'est pourquoi ils ont cherché à élargir les causes de la responsabilité civile. Toutefois, jusqu'à présent, les notions qui ont été proposées pour se substituer à la faute demeurent toutes plus ou moins liées au comportement de la personne physique ou morale à laquelle on cherche à imputer cette responsabilité. Autrement dit, s'il ne s'agit plus de la faute subjective individuelle, du moins s'agit-il de concepts qui sont dérivés de la faute. Or, on peut se demander s'il ne serait pas temps aujourd'hui de changer de méthode, à l'exemple de certains droits étrangers, et de redéfinir le champ de la responsabilité civile, non plus seulement à partir d'un examen du comportement du responsable, mais plutôt à partir des conséquences de ce comportement, c'est-à-dire à partir du dommage. Les tentatives qui ont été faites pour suppléer les insuffisances de la faute par d'autres concepts dérivés de celle-ci sont très diverses. Celles qui ont eu le plus grand retentissement remontent à la fin du XIXe siècle. Elles émanent de deux écoles de juristes, dont l'une a proposé, dès 1883-1884, de résoudre la question des accidents du travail et des accidents de transport en présumant que le contrat de travail et le contrat de transport comportent une clause implicite de sécurité, autrement dit qu'ils engendrent une obligation de sécurité. Tandis que l'autre école a développé, à partir des années 1890, la fameuse théorie du risque, qui consiste à imputer à ceux qui exercent des activités, en particulier des activités dangereuses, la charge d'indemniser les dommages que provoquent ces activités, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de leur part, tout simplement parce qu'ils en ont pris l'initiative et qu'ils en recueillent les profits. Or, ces deux écoles ont finalement obtenu des succès également éclatants. En effet, dès 1896, la Cour de cassation a consacré la théorie du risque à propos d'un accident du travail dont elle a admis que l'employeur devait répondre sans que sa faute fût établie, et après la promulgation de la loi sur les accidents du travail de 1898, qui a confirmé cette responsabilité objective, elle a appliqué la même solution à d'autres catégories d'accidents causés par des choses dangereuses, en particulier aux accidents d'automobile. Elle s'est appuyée, pour développer cette jurisprudence, qui a pris de plus en plus d'ampleur, sur l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Or, ce texte dispose qu'on est responsable non seulement de son propre fait, mais aussi du fait des choses dont on a la garde. C'est donc la notion de fait de la chose, instrument du dommage, qui a été mise en avant pour justifier la responsabilité sans faute de la personne qui en avait la garde, c'est-à-dire le contrôle au moment de la survenance du dommage. Quant à l'obligation de sécurité, elle a été consacrée à son tour en 1911 à propos d'un accident de transport maritime. Et elle a été constamment invoquée par la suite pour justifier la responsabilité des professionnels en cas de dommages corporels subis à l'occasion de l'exécution de diverses prestations contractuelles intéressant la sécurité physique du client, comme les transports, toutes sortes de transports, mais aussi les contrats de remontée mécanique, les contrats de jeux forains et bien d'autres. Ces deux créations jurisprudentielles sont aujourd'hui l'une et l'autre couramment appliquées au profit des victimes de toutes sortes d'accidents. Ajoutons que la jurisprudence administrative a elle aussi fait une place de plus en plus importante à l'idée de risque, même si elle ne l'a pas mise en œuvre de la même façon que la jurisprudence judiciaire, faisant prévaloir plutôt la notion d'activité dangereuse pour justifier la responsabilité sans faute de l'administration. On constate donc que les causes de responsabilité civile se sont diversifiées et de plus en plus nettement démarquées de la faute personnelle. Cependant, toutes ces notions de remplacement, garde de la chose, manquement à l'obligation de sécurité, exposition à un risque créé par une activité dangereuse, restent fondées sur un jugement de comportement au sens large. Or, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que si ces dérivés de la faute ont permis effectivement de répondre à un besoin évident d'indemnisation de certains dommages, ils ont également entraîné certains effets pervers qui se font sentir désormais de plus en plus fortement. En effet, la méthode consistant à élargir la définition du fait générateur de responsabilité conduit à des résultats par certains côtés excessifs, en justifiant une responsabilité très large pour des dommages parfois insignifiants ou dont l'indemnisation ne correspond pas à un besoin social évident. Et par d'autre côté, à des résultats insuffisants, puisqu'elle n'a pas permis, par exemple, jusqu'à présent, d'assurer l'indemnisation de certains dommages corporels graves, comme par exemple ceux qui résultent des accidents médicaux. On peut donc se demander s'il ne serait pas opportun de modifier la perspective et d'envisager aujourd'hui de redéfinir le champ de la responsabilité civile plutôt à partir de la notion de dommage. Certes, une telle démarche paraît-elle au premier abord insolite et même rétrograde. Ne serait-ce pas en effet un retour pur et simple au droit romain qui visait un certain nombre de situations dommageables, la mort, les blessures, certaines atteintes aux biens, certaines injures, et qui prévoyait pour chacune d'elles des sanctions, pécuniaires ou autres, qui avaient à la fois une fonction répressive et une fonction indemnitaire. Pourtant, il faut bien constater que cette tradition du droit romain ne s'est nullement perdue, et que, bien au contraire, elle a été fidèlement maintenue jusqu'à nos jours par le droit anglais et par tous ceux qui s'en inspirent. Ces systèmes juridiques ne connaissent pas, en effet, à proprement parler, le concept de responsabilité, au moins sur le plan civil. Mais ils pratiquent un droit des torts, c'est-à-dire des dommages, qui se compose d'une collection de délits spéciaux définis pour la plupart non pas à partir de la faute ou du comportement de l'auteur, mais à partir de la nature du dommage, trespass, batterie, assault, nuisance, deceit, defamation, etc. C'est d'ailleurs précisément ce caractère éparpillé, cet aspect casuistique, qui est de nature à choquer, voire à rebuter les juristes continentaux, en particulier les Français, épris d'unité et de généralité, et si fiers à ce titre de la formulation élégante de l'article 1382 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En effet, il est bien évident que si l'on définissait le domaine de la responsabilité civile principalement à partir du dommage, cela impliquerait un abandon ou une marginalisation des règles générales fondées sur les articles 1382 et suivants, du Code civil au profit d'une montée en puissance des régimes spéciaux adaptés à différentes espèces de dommages, autrement dit un renoncement à notre fameux droit commun à vocation généraliste au profit d'une casuistique des délits spéciaux qui nous paraît au premier abord assez anachronique, alors surtout que le droit anglais de son côté se trouve engagé depuis une cinquantaine d'années déjà dans un processus inverse avec la progression d'un tort dominant qui est le tort de négligence, qui évoque singulièrement aujourd'hui notre article 1382 du Code civil. Et pourtant, à condition de ne pas systématiser et par conséquent de ne pas renoncer aux applications utiles de nos principes généraux, dans les domaines par exemple de la concurrence et plus généralement du droit économique, dans le domaine de la protection des droits de la personnalité et d'autres encore, il y a de bonnes raisons de penser qu'un véritable coup de barre en direction d'une prise en compte plus forte de la notion de dommage, présenterait des avantages et ne serait pas nécessairement contraire au génie du droit français. En effet, si au lieu de continuer à soumettre en principe au même régime de responsabilité civile tous les types de dommages, qu'il s'agisse d'atteinte à la personne ou au bien, de dommages économiques ou de dommages purement moraux, de dommages graves qui bouleversent la vie de la victime ou de sa famille, ou de dommages très légers, de simples broutilles, si au lieu de faire cela, on s'orientait vers une prise en compte de la nature, de la gravité du dommage, pour moduler le régime applicable, il me paraît hors de doute que notre droit y gagnerait en réalisme et que les sommes consacrées à l'indemnisation seraient réparties de façon plus rationnelle et plus juste qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'ailleurs, sur ce point, l'un de nos grands juristes, Boris Stark, a eu, à mon avis, une intuition très juste lorsqu'il a proposé de tracer la ligne de partage entre responsabilité pour faute et responsabilité sans faute à partir de la nature du dommage, la première convenant, selon lui, à l'indemnisation des dommages moraux et des pertes de profits économiques, tandis que les atteintes à la personne ou au bien devraient être garanties, même sans faute. Ajoutons qu'en dépit des apparences, la méthode consistant à définir le domaine des responsabilités à partir du dommage est si peu étrangère à nos modes de raisonnement qu'elle est d'ores et déjà très largement utilisée par notre droit positif. Il est évident, par exemple, que notre jurisprudence administrative en fait constamment usage. En effet, lorsqu'elle décide d'écarter le droit commun de la responsabilité pour faute du service public, c'est le plus souvent en considération de la nature, de la spécialité et de la gravité du dommage. Et on peut en prendre, pour exemple, les arrêts récents qui ont admis la responsabilité sans faute de l'hôpital public à la suite d'interventions chirurgicales qui avaient été réalisées dans le respect des règles de l'art, après avoir constaté précisément l'extrême gravité du dommage corporel constaté. Mais c'est surtout le législateur qui s'est engagé depuis longtemps déjà et de plus en plus résolument dans cette voie de la création de régimes spéciaux adaptés à certains dommages particuliers. Par exemple, des textes déjà anciens ont admis que la responsabilité du transporteur est mise en cause dans des conditions différentes selon que le dommage a atteint la personne du passager ou des marchandises ou des bagages. Et cette tendance est encore plus nettement illustrée par la loi du 5 juillet 1985 sur des accidents de la circulation routière qui a soumis à des régimes différents la réparation des atteintes à la personne et celle des atteintes aux biens. D'ailleurs, ce dernier exemple est révélateur de la non-contradiction et même de la complémentarité des deux types d'évolutions qui viennent d'être rappelées. En effet, desserrer le verrou de la faute pour autoriser l'indemnisation de certains accidents non fautifs n'empêche nullement de diversifier les conditions de la responsabilité en fonction de la nature et de la consistance du dommage. En effet, la loi du 5 juillet 1985 va très nettement dans ces deux directions qui répondent à des exigences également importantes et de plus en plus ressenties à notre époque. Parmi les causes du trouble social qui justifient l'apparition d'une responsabilité, la place de la faute, qui reste essentielle en matière pénale, tend donc à se réduire en matière civile au profit du dommage. Mais en toute hypothèse, ce trouble doit être imputable à un sujet désigné en fonction de sa participation au fait qu'il a provoqué. Il existe en effet une différence essentielle entre le simple répondant, par exemple une caution ou un assureur, qui doit répondre pour un fait à la production duquel il n'a aucunement participé, même indirectement, et le responsable qui précisément est appelé à répondre en raison de sa participation à la réalisation du trouble social. Cet aspect de la responsabilité renvoie lui-même à deux éléments dont l'un est matériel, c'est l'imputation de l'acte à tel ou tel sujet de droit, et l'autre est de nature subjective, c'est l'imputabilité, c'est-à-dire l'aptitude psychologique du sujet concerné à assumer les conséquences de cet acte. Or, pour définir ces éléments, on est immédiatement confronté à un choix fondamental entre deux conceptions profondément différentes de la responsabilité juridique. Celle-ci doit-elle être conçue sur le modèle de la responsabilité morale ? Dans ce cas, il est naturel d'admettre, à la suite de Kant, qu'elle est le corollaire de la liberté et qu'elle est impensable sans référence à la notion de personne et même à la notion de personne physique, l'être humain étant seul doué de liberté. En revanche, si on détache plus nettement la responsabilité juridique de la responsabilité morale, pour la fonder sur l'utilité sociale et la justice dans les rapports entre celui ou ceux qui ont provoqué le trouble social et celui ou ceux qui en ont subi les conséquences, il devient alors parfaitement concevable d'imputer la responsabilité à une entité collective ou à un sujet de droit dont la participation à l'activité dommageable a été indirecte. Quant à l'aspect subjectif, c'est-à-dire l'imputabilité morale, il ne sera plus nécessairement requis. Or, précisément, ce qui caractérise l'évolution des responsabilités juridiques au cours du siècle qui vient de s'achever, c'est une nette prise de distance vis-à-vis de la responsabilité morale et une prise en compte croissante de l'impératif d'utilité sociale. Toutefois, cette évolution, qui est très prononcée en matière civile, l'est moins en matière pénale, où la référence morale demeure plus marquée. En ce qui concerne la désignation du sujet de droit qui doit assumer la responsabilité, c'est-à-dire la question de l'imputation matérielle, le passage de la conception morale à la conception utilitariste s'est manifesté de différentes façons. On signera d'abord les progrès foudroyants de la responsabilité des personnes morales. Le droit reconnaît depuis longtemps une véritable autonomie juridique à certains groupements qui relèvent soit du droit privé, ce sont les sociétés civiles ou commerciales, les associations, les syndicats, soit du droit public, il s'agit de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics. Or, pour réaliser cette autonomie, il est apparu nécessaire de conférer à ces groupements un certain nombre de prérogatives qui appartiennent également aux personnes physiques. Il s'agit du droit de posséder un patrimoine, de posséder un nom, une nationalité, un domicile. La doctrine en a donc déduit de toutes ces prérogatives que le groupe pouvait acquérir une sorte de personnalité, la personnalité juridique, et c'est la raison pour laquelle ces groupements ont reçu le nom de personnes morales. Or, précisément, la question qui s'est très vite posée est de savoir si la personne morale peut, comme la personne physique, assumer des responsabilités pour les conséquences des activités qui sont poursuivies pour son compte par ses représentants. Jusqu'au début des années 1990, la réponse à cette question de la responsabilité des personnes morales est restée en principe opposée en droit civil et en droit pénal. En droit civil, les tribunaux ont admis depuis très longtemps que les personnes morales doivent indemniser les victimes de dommages causés dans le cadre des activités accomplies pour leur compte, tant par leurs organes dirigeants que par leurs employés ou préposés. Cette solution s'explique de toute évidence par des raisons tirées de l'utilité sociale. Prenons un seul exemple, celui des marées noires qui viennent périodiquement souiller les côtes bretonnes. Il est clair que du point de vue de l'utilité sociale, du point de vue d'efficacité de l'indemnisation, il est préférable de faire prendre en charge les suites de tels sinistres par l'armateur ou l'affréteur, du moins lorsqu'il s'agit de sociétés ou de groupes de grande envergure, plutôt que de s'en tenir à la responsabilité personnelle du capitaine du navire, quelque grave qu'aient été les négligences qu'il a commises. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le juge américain dans la fameuse affaire de l'Amoco Cadiz, et ce juge a même fait remonter la responsabilité jusqu'à la compagnie Standard Oil, en considérant que sa filiale, Amoco Transport, qui jouait le rôle d'armateur, n'avait été qu'un paravent. Toutefois, cette vision utilitariste, qui est déterminante en droit civil, car il s'agit d'assurer aux victimes une indemnisation correcte de leurs dommages, peut paraître, au moins à première vue, hors de propos en droit pénal, où il s'agit non pas de réparer un dommage, mais de sanctionner des comportements répréhensibles qui sont le plus souvent le fait de personnes physiques. C'est pourquoi, jusqu'à ces dernières années, le droit pénal français est resté attaché à une conception individualiste de la responsabilité pénale, écartant, en principe, celle des personnes morales. Pourtant, à partir des années 1980, cette conception a été très vivement critiquée. On a fait remarquer que dans de nombreux cas, lorsque le ou les véritables inspirateurs de l'infraction commise sous le couvert de la personne morale n'ont pu être identifiés, soit la répression échoue purement et simplement, ce qui laisse à l'opinion publique une impression d'impunité qui est souvent très mal ressentie, soit elle se polarise sur un exécutant sans pouvoir ou sur un dirigeant qui sert de bouc émissaire, ce qui est également injuste. On a donc fait valoir qu'il serait préférable de poursuivre et de condamner la personne morale elle-même. De fait, ces réflexions et ces critiques ont amené les rédacteurs du nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, à inverser la solution traditionnelle en admettant désormais la responsabilité pénale des personnes morales, publiques ou privées, pour de nombreuses infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. C'est là une réforme capitale qui rapproche sensiblement le droit français de nombreux droits étrangers, en particulier les droits anglais, américains, canadiens et néerlandais. On doit remarquer toutefois qu'en droit français, la responsabilité pénale des personnes morales reste moins largement définie que leur responsabilité civile. La responsabilité civile peut en effet être mise en jeu non seulement par le fait de leurs organes dirigeants, mais aussi par celui de leurs préposés ou employés, ce qui n'est pas le cas pour la responsabilité pénale. La différence entre droit pénal et droit civil est encore plus marquée à propos d'une autre question qui touche également à la désignation du responsable. Il s'agit de la responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire de la responsabilité qui incombe à une personne pour un acte accompli matériellement par une autre. En droit civil, ce concept de responsabilité pour autrui est actuellement en plein essor. Alors que le Code civil n'avait admis de responsabilité pour autrui que dans quelques cas particuliers, la responsabilité du père pour le fait de son enfant mineur, la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé, de l'artisan pour le fait de l'apprenti et de l'instituteur pour le fait de ses élèves, la jurisprudence a par la suite largement développé ce type de responsabilité. Elle a d'abord donné une portée considérable à la responsabilité du commettant, qui est appliquée chaque fois qu'un dommage est causé par une personne qui travaille pour le compte d'une autre et sous sa direction, même si la relation de travail est occasionnelle et que le préjudice est causé non pas dans l'exercice des fonctions du préposé, mais seulement à l'occasion de ses fonctions. Les tribunaux ont par ailleurs admis que tout débiteur qui confie volontairement à un auxiliaire ou à un substitut l'exécution de tout ou partie de ses obligations contractuelles, sans se faire décharger de sa dette par le créancier, doit répondre vis-à-vis du créancier de toute défaillance de l'auxiliaire ou du substitut. Enfin, par un arrêt très important du 29 mars 1991, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute formation de la Cour de cassation, a jugé que la liste des cas de responsabilité pour autrui énumérée par le Code civil n'est pas limitative et que les juges peuvent donc, s'ils l'estiment utile, en créer d'autres. Cette décision, qui prend le contre-pied d'une jurisprudence antérieure constante, ouvre donc des perspectives très vastes quant au développement futur du concept de responsabilité civile pour autrui. Celle-ci pourrait en effet être admise à la charge de toutes les personnes qui exercent un contrôle ou un pouvoir de nature juridique et économique sur l'activité d'autrui. Le concept de responsabilité civile pour autrui est donc en pleine expansion. En va-t-il de même pour la responsabilité pénale ? Avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, on pouvait le penser. En effet, on a assisté à partir des années 1960-70 à un développement continu de la responsabilité pénale du chef d'entreprise à l'occasion d'infractions commises par ses employés ou préposés, notamment en cas d'atteinte à la sécurité du travail, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Toutefois, il semble que le nouveau code pénal ait voulu donner un coup de frein à ce mouvement. En effet, un article de ce code, l'article 121.1, dispose, je cite, « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », ce qui devrait inciter les tribunaux à ne condamner le chef d'entreprise à l'occasion des infractions matériellement commises par ses subordonnés qu'après avoir relevé une faute, faute de choix ou faute de surveillance, imputable personnellement à l'employeur. Une troisième évolution, qui concerne également la désignation du responsable, est restée quant à elle strictement cantonnée au domaine de la responsabilité civile. Il s'agit du mouvement qui tente à désigner d'avance le responsable en fonction de ses capacités de recours à l'assurance. Cette tendance s'est parfois manifestée en jurisprudence, mais c'est surtout le législateur qui l'a encouragée. Il est en effet de plus en plus fréquent aujourd'hui que des textes, nombreux, édictent pour certaines activités dangereuses à la fois une obligation de prendre une assurance de responsabilité et un principe de responsabilité civile strict à la charge du sujet de cette obligation pour tous les risques de son activité. Ce jumelage entre une obligation d'assurance et une responsabilité stricte a été réalisé pour la première fois par la Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité des exploitants de réacteurs nucléaires. En effet, la Convention a fait peser sur l'exploitant du réacteur à la fois une obligation d'assurance et une responsabilité pour tous les dommages, une responsabilité stricte pour tous les dommages réalisés sur le site. Mais par la suite, ce modèle a été souvent reproduit. Par exemple, la loi du 20 décembre 1988 relative aux expérimentations sur l'homme a édicté une obligation d'assurance doublée d'une responsabilité civile renforcée qui pèse automatiquement sur le promoteur de l'expérience. De même, la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation a fait peser, a canalisé la responsabilité sur le conducteur et le gardien du véhicule qui sont toujours couverts par l'assurance obligatoire. Lorsque de telles dispositions existent, elles dispensent en réalité les juges de toute recherche relative à l'imputation, le responsable étant, en cas de réalisation des risques envisagés, désigné d'avance. L'abandon du modèle de la responsabilité morale est alors évident au profit de la recherche d'une efficacité maximale. Il s'agit en effet d'assurer aux victimes les meilleures garanties d'indemnisation, tout en évitant de nuire au responsable qui est lui-même garanti par son assurance. Cette tendance n'affecte en revanche nullement la responsabilité pénale qui ne peut précisément être garantie par une assurance. En définitive, on constate que l'exigence d'une participation matérielle du sujet à l'activité dangereuse ou nuisible dont on lui impute la responsabilité a subi de profondes transformations au cours du XXe siècle. En va-t-il de même en ce qui concerne la participation intellectuelle ou psychologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'imputabilité subjective? En droit civil, la réponse affirmative ne fait aucun doute. Cette condition a été peu à peu écartée afin de donner une plus grande efficacité à la fonction indemnitaire de la responsabilité. Remarquons d'abord que cette condition n'est plus requise dans les très nombreuses hypothèses où c'est une personne morale qui assume la responsabilité. En outre, il y a longtemps que l'imputabilité est présumée, ce qui dispense généralement les juges d'avoir à l'établir, à la caractériser. Du moins, a-t-il été admis pendant environ un siècle que la preuve de l'inconscience totale au moment de l'acte dommageable, notamment en raison d'un trouble mental, ou en raison du très jeune âge du sujet qui a commis l'acte, que cette circonstance devait écarter sa responsabilité pour défaut d'imputabilité. Mais cette règle, après avoir été largement amputée, notamment par une réforme législative de 1968, qui a reconnu que celui qui a causé un dommage à autrui sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation, cette règle a reçu finalement le coup de grâce. Le 9 mai 1984, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ayant admis ce jour-là la pleine responsabilité civile de l'enfant, indépendamment de tout examen de ses facultés de discernement. On peut donc en déduire, même si la position du droit français à cet égard apparaît isolée et sans doute excessive, que l'imputabilité morale s'est totalement retirée du droit de la responsabilité civile. En revanche, le droit pénal continue, quant à lui, à exiger la participation intellectuelle de l'agent à la violation de la loi pénale, ce qui justifie l'irresponsabilité en cas de contrainte et de troubles psychiques ayant aboli le discernement du sujet ou le contrôle de ses actes. Cependant, sans contester ces solutions qui sont certaines, certains auteurs qui ont formé ce qu'on a appelé l'école de la défense sociale ont proposé, à partir du milieu du XXe siècle, un infléchissement de cette condition d'imputabilité pénale. Ils ont soutenu en effet qu'elle ne devrait plus être comprise comme l'aptitude à mériter une sanction, mais plutôt comme l'aptitude à profiter de celle-ci. Autrement dit, il faudrait prendre en compte non pas l'état psychologique du sujet au moment même de l'acte, mais les virtualités d'évolution de sa personnalité. Il s'agit donc de faire évoluer le concept d'imputabilité vers celui de capacité pénale. Toutefois, cette tendance, qui a nettement influencé le législateur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a inspiré en particulier la grande loi de 1945, la grande ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, paraît aujourd'hui plutôt en recul. En effet, les progrès de la délinquance ont suscité depuis quelques années une réaction en faveur d'une répression dure qui s'accommode assez mal des nuances auxquelles convie l'examen de la capacité pénale. Ainsi, dans l'ensemble, l'évolution qui s'est produite au cours du XXe siècle a contribué, par différents moyens, à émanciper la responsabilité juridique de la responsabilité morale en atténuant tous les facteurs qui, pendant une période de son histoire, en avaient fait la sanction d'un sentiment de culpabilité pour l'orienter dans une direction totalement différente, la mise en œuvre d'une réponse adéquate à une situation qui trouble l'ordre social. Précisément, il est temps à présent de regarder la responsabilité du côté de ses finalités. Lorsqu'on évoque le mot « réponse », cela amène d'abord à s'interroger sur le destinataire. Est-ce la société, victime du trouble social, ou s'agit-il des particuliers qui ont souffert le plus directement de ce trouble? Par ailleurs, le mot « réponse » implique l'idée de correspondance, d'adéquation. Mais à quoi correspondre? Ici, la dualité des notions qui ont été longtemps considérées comme nécessaires pour susciter le besoin de réaction du droit, à savoir la faute et le dommage, crée une incontestable ambiguïté. Répondra-t-on d'abord à la faute? Dans ce cas, la réplique devra consister en une peine, ayant une portée rétributive, dissuasive, éventuellement préventive. Cherchera-t-on plutôt à apporter une réponse à l'état de besoin créé par le dommage? Dans cette optique, la mesure adéquate sera le rétablissement des choses en l'état antérieur ou au moins la réparation sous la forme d'une compensation pécuniaire ou d'un autre avantage susceptible d'atténuer l'effet préjudiciable du fait qui a créé le trouble social. Dans les droits anciens, en particulier le droit romain, mais aussi dans les anciens droits français et anglais, ces différents objectifs n'étaient pas clairement distingués, de telle sorte que la condamnation imposée aux responsables avait généralement une double fonction. En revanche, dans les droits modernes, la distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale permet une répartition plus claire et plus logique. Au droit pénal revient la mission de donner satisfaction à la société en infligeant une peine dont la gravité est mesurée à celle de l'infraction et dont le profit éventuel va au trésor public. Au droit civil, incombe en revanche la mission de secourir la victime en proposant des remèdes propres à effacer ou au moins à compenser le dommage. A priori, ces objectifs étant à la fois distincts et complémentaires, les deux branches de la responsabilité paraissent destinées à s'épauler mutuellement tout en restant pleinement autonomes. Pourtant, au vu de certaines tendances actuelles, on peut se demander si cette complémentarité et cette autonomie ne seraient pas l'une et l'autre menacées. Les menaces qui pèsent actuellement sur le maintien de la vocation concurrente de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale proviennent du fait que, dans certains domaines, l'une des deux branches de la responsabilité tend à s'effacer purement et simplement. Ce mouvement de retrait a surtout affecté jusqu'à présent la responsabilité civile qui, dans un certain nombre de systèmes juridiques, a d'ores et déjà cédé une partie de la place qu'elle occupait auparavant dans le vaste domaine des atteintes accidentelles à la sécurité des personnes. Les causes de cet effacement sont aujourd'hui bien connues. La première d'entre elles tient à l'incapacité qu'a manifestée le droit de la responsabilité civile à éliminer certaines causes d'exonération du responsable, comme par exemple la faute de la victime ou le cas fortuit, qui apparaissent aujourd'hui comme limitant abusivement l'indemnisation, alors que celle-ci est de plus en plus ressentie pour ce type de dommage comme un véritable impératif social. Quant à la seconde raison, elle réside dans l'existence et le développement de procédés d'indemnisation collective, assurance, sécurité sociale, fonds de garantie, qui précisément sont en mesure de satisfaire ce besoin d'indemnisation accrue. De ce fait, la responsabilité civile se trouve peu à peu refoulée des positions qu'elle occupait auparavant. Elle l'a déjà été pour les accidents du travail en France et ailleurs. Elle tend à l'être également pour les accidents de la circulation. Et depuis quelques années, la même évolution est envisagée à propos des accidents médicaux et quelquefois de l'ensemble des accidents corporels. Or, ce qui est frappant, c'est que généralement, les auteurs qui ont prôné et qui prônent encore cette évolution afin de permettre une amélioration de l'indemnisation prennent soin néanmoins de proposer en même temps un réaménagement de la répression dans le but d'éviter tout relâchement de la conduite des personnes concernées et d'inciter à la prévention. Tant il est vrai que la disparition de l'une des branches de la responsabilité rejaillit sur l'autre en lui imposant un supplément de vigilance. Une réaction du même type s'est d'ailleurs manifestée lorsque il a été question de dépénaliser, et notamment la première expérience véritable de dépénalisation qu'a réalisée en matière de concurrence l'ordonnance du 1er décembre 1986, a amené les rédacteurs de cette ordonnance, en même temps qu'ils abolissaient l'incrimination de certains refus de vente, à organiser spécialement la mise en jeu de la responsabilité civile en la soumettant à des règles particulières qui, dans leur esprit, avaient très vraisemblablement pour but d'en renforcer l'efficacité. C'est dire que loin d'infirmer la complémentarité profonde de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale, ces expériences la confirment au contraire. Mais cette complémentarité implique-t-elle nécessairement le maintien de leur autonomie? C'est une question que l'on peut en tout cas se poser en constatant que, dans certains cas, leurs fonctions tendent aujourd'hui à se rejoindre. L'interpénétration des fonctions respectives de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale est en effet un phénomène qui tend aujourd'hui à s'accuser. Il s'est manifesté parfois en droit pénal, où les idées de réparation et de compensation ont inspiré un certain nombre de dispositions. Par exemple, dans l'arsenal des sanctions qui sont mises à la disposition des tribunaux répressifs, on en relève certaines qui sont intermédiaires entre la peine et la réparation. C'est le cas, par exemple, des amendes fiscales et douanières qui ont un but ouvertement indemnitaire, ainsi que de certaines mesures de restitution, comme celles qui consistent à rendre à leurs légitimes propriétaires des choses détournées ou volées. Mais ce qui marque surtout cette interférence des objectifs du droit civil et du droit pénal, ce sont les diverses mesures que le législateur a prises afin de favoriser le règlement par le prévenu des condamnations civiles. Ainsi, la loi a subordonné la réhabilitation judiciaire du prévenu au paiement des réparations civiles, et elle a fait de ce paiement l'une des conditions dont peut être assortie la libération conditionnelle ou le sursis avec mise à l'épreuve. La loi a également autorisé le juge d'instruction à affecter une partie du cautionnement imposé en cas de contrôle judiciaire à la garantie des droits des victimes. Enfin, le législateur a donné au tribunal la faculté de dispenser le prévenu de toute peine lorsque le dommage est réparé et d'ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il est en voie de l'être. Toutes ces mesures concourent donc à faire de la condamnation pénale un instrument de pression en faveur de l'indemnisation. Mais il est plus fréquent encore de constater une pénétration des objectifs répressifs et préventifs dans le domaine de la responsabilité civile. Cette tendance trouve d'ailleurs un appui doctrinal dans la théorie qu'on appelle la théorie de la peine privée, que certains civilistes ont invoquée pour expliquer certains aspects de la responsabilité civile et qui rend effectivement compte de certaines condamnations prononcées par des tribunaux civils, tant à l'étranger qu'en France. L'institution la plus typiquement inspirée de l'idée de peine privée est évidemment celle des dommages d'intérêt qu'on appelle les dommages d'intérêt punitifs ou exemplaires, pratique des dommages d'intérêt punitifs qui s'est développée d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. Il s'agit d'une somme d'argent allouée par le juge au-delà de celle qui correspond à la réparation du dommage. Cette mesure est laissée à la discrétion du juge, mais on admet qu'elle est réservée aux cas dans lesquels l'acte préjudiciable a été entouré de circonstances particulières qui l'ont rendu spécialement outrageant, vexatoire ou pénible pour la victime. Cependant, les juges considèrent qu'il peut en être ainsi non seulement en présence d'une faute intentionnelle, mais aussi d'une grave négligence, et que cette punition peut être infligée à l'occasion de préjudices très divers. Elle a été employée non seulement à propos de dommages corporels ou d'atteinte aux droits de la personnalité, mais aussi pour des préjudices de nature économique. Les dommages d'intérêt punitifs sont actuellement d'un usage tout à fait courant aux États-Unis. En revanche, en Angleterre, ils ont fait l'objet en 1964 d'une limitation qui en rend l'application exceptionnelle. Mais l'institution a été adoptée également au Canada, en Australie, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Assez proches des dommages d'intérêt punitifs, les dommages d'intérêt exemplaires ou multiples ont été admis par différents textes aux États-Unis et ils se chiffrent alors à une somme correspondant à un multiple, généralement le double ou le triple, de la perte effectivement subie. Le droit français, quant à lui, ignore officiellement les dommages d'intérêt punitifs ou exemplaires, il en prohibe même l'usage. Cependant, l'idée de peine privée n'est pas totalement absente de notre système de responsabilité civile. Elle affleure parfois sous une forme indirecte. L'un des exemples que l'on donne volontiers de cette institution est celui de l'action civile exercée accessoirement à l'action publique par une personne morale de droit privé à l'occasion d'une infraction portant atteinte à un intérêt collectif qu'elle prétend représenter. En effet, cette action est utilisée en fait comme un véritable auxiliaire de la répression. Ainsi, malgré leur caractère en principe bien distinct, les objectifs de la responsabilité civile et ceux de la responsabilité pénale tendent parfois à se rejoindre, ce qui témoigne en définitive de l'unité fondamentale du concept de responsabilité juridique et de son orientation de plus en plus utilitaire. En définitive et en conclusion, ce qui ressort de cet examen rétrospectif, c'est d'abord que la responsabilité juridique, qui a été très longtemps, sinon confondue avec la responsabilité morale, du moins étroitement subordonnée à celle-ci, tend de plus en plus à répudier cet assujettissement pour se tourner résolument vers les seuls objectifs qui sont ceux du droit, à savoir l'utilité sociale et la justice limitée aux relations entre les parties au litige. Cette évolution, qui a affecté d'abord très largement la responsabilité civile, se manifeste également aujourd'hui très nettement, bien que plus discrètement, dans le domaine pénal. La seconde constatation porte sur la complémentarité et la solidarité profonde des deux aspects de la responsabilité civile et pénale dans la recherche et la mise en œuvre de la réponse adaptée aux troubles sociaux. Pourtant, on a pu se demander, notamment au cours des années 70-80, si la responsabilité civile n'était pas menacée de disparition. En effet, nous avons constaté que dans le domaine des accidents corporels en particulier, elle a eu tendance à s'effacer au profit d'autres méthodes d'indemnisation a priori plus efficaces. Toutefois, aujourd'hui, cette éventualité d'une disparition de la responsabilité civile paraît s'éloigner. En effet, bien qu'elle ait perdu une partie de ses applications traditionnelles et que de nouvelles imputations soient possibles dans le domaine des dommages corporels, d'autres perspectives se sont ouvertes à elle ces dernières années dans les domaines variés qui vont de la sanction des droits de la personnalité et de l'atteinte aux valeurs morales, à la régulation des conflits sociaux, à la sanction de certaines malhonnêtetés dans le domaine financier, sans oublier, bien entendu, les atteintes à l'environnement. Après tout, c'est bien en application des règles de la responsabilité civile qu'ont été condamnés les auteurs des diverses marées noires qui ont submergé les côtes bretonnes et que seront indemnisées les victimes du naufrage de l'Erika. C'est la responsabilité civile qu'ont invoqué les victimes du sang contaminé contre les centres de transfusion sanguine, et c'est encore sur elles que s'appuient aujourd'hui les demandes présentées par les victimes de l'amiante, du tabac et de toutes sortes de produits industriels dangereux. Pour l'instant, la responsabilité juridique est donc bien vivante, y compris dans sa composante civile.
Maintenant, nous passons aux questions et je vous demanderai de poser des questions courtes pour que plusieurs personnes puissent en poser. Merci. Une là, et puis oui. Ici, d'abord là, puis après là.
Oui, bonsoir madame. Je voulais vous demander si...
Levez-vous s'il vous plaît.
Pardon. Je vais tout renverser. Mais... Je voulais vous demander si vous seriez d'accord, c'est vraiment une question plus personnelle, pour complètement réviser la responsabilité civile et, dans le fond, accepter qu'elle soit, si vous aviez votre mot à dire, accepter qu'elle soit punitive. C'est-à-dire que l'on accepte complètement l'idée que l'article 1382 n'est plus seulement réparateur, mais aussi peut servir de peine privée, et dans le fond, une introduction tout à fait large et officielle du dommage punitif en droit français.
Alors, c'est là un problème qui est extrêmement débattu actuellement et très polémique. Parce que, généralement, on présente, si vous voulez, les dommages d'intérêt punitif dans l'optique du droit américain. Et on dit, le droit américain, qu'on présente en Europe souvent comme ayant de grands défauts, étant un droit trop favorable aux victimes, très coûteux, qui va trop loin dans le sens de l'indemnisation. Et justement, on invoque cette existence des dommages d'intérêt punitif comme étant l'un de ses défauts. Alors, je pense que c'est d'abord une présentation qui probablement est excessive. Et je pense qu'effectivement, les dommages d'intérêt punitif, dans certains domaines, au moins, pourraient avoir une grande utilité. Je ne dis pas qu'elle pourrait remplacer complètement les applications de la responsabilité indemnitaire, mais je pense que dans certains cas, c'est tout à fait efficace. On l'a vu d'ailleurs pour certaines pratiques aux États-Unis, par exemple sur Booking. Il y a eu un moment où les compagnies américaines pratiquaient le surbooking de façon systématique, et certaines cours américaines ont prononcé des dommages d'intérêt punitif très dissuasifs, et la pratique a été tout à fait améliorée dans ce domaine. On l'a vu à propos aussi des voitures, certaines voitures, je ne sais plus quel modèle de voiture, qui avait le réservoir d'essence se trouvait mal placé et il y avait eu, c'était un défaut de conception en réalité, il y avait eu des incendies et des accidents très graves. Et les dommages d'intérêt punitif ont ici joué leur rôle également et le constructeur a aussitôt réagi en corrigeant ce défaut. Donc on voit qu'il y a dans certains cas une véritable efficacité des dommages d'intérêt punitif, beaucoup plus que souvent de la répression pénale. Parce que dans les domaines où les profits sont énormes, la répression pénale, souvent, est insuffisante. Elle ne dissuade pas réellement. Donc, les dommages d'intérêt punitif sont utiles. En revanche, dans d'autres domaines, peut-être qu'il y a des excès. Je ne veux pas me prononcer. Je ne pense pas qu'il y ait lieu supprimer, de complètement modifier l'orientation de la responsabilité civile, parce que l'aspect indemnitaire reste très important. Mais il y a des domaines, peut-être les domaines justement dans lesquels il y a un profit, l'activité très profitable, et la réparation du simple dommage n'est pas dissuasive, par exemple en matière de presse, ou dans d'autres domaines comme cela, il serait très utile, à mon avis, d'introduire quelque chose qui ressemble au dommage d'intérêt punitif.
Oui, monsieur. Professeur, qu'on ait été votre étudiant ou pas, on connaît votre thèse, dans laquelle vous constatiez le déclin de la responsabilité individuelle et vous vous en inquiétiez. On voulait vous demander, qu'est-ce que vous en pensez 35 ans plus tard? Deuxième petite question. Ceux qui redoutent la judiciarisation du système français sont en particulier les médecins. Professeur, est-ce que ce n'est pas parce que jusqu'à présent, ce sont ceux qui ont été considérés, j'espère qu'il n'y a pas mon médecin dans la salle, qui ont été considérés véritablement comme des intouchables, parce que je trouve absurde que l'on demande à un patient qui a subi un dommage de démontrer que le médecin a commis une faute, ce qui est pratiquement toujours impossible. Et que le législateur devait être un tout petit peu plus courageux et faire comme on a fait en 1985 avec la loi Badinter. Merci.
Alors, deux questions. Où est-ce que, ce que je pense du déclin des responsabilités individuelles, 35 ans plus tard. je pense qu'effectivement, c'est une réalité. La responsabilité individuelle est moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle. Et ça tient au développement d'assurance qui s'est poursuivi. Donc, je n'ai pas changé d'avis sur ce plan-là. Bon, le diagnostic, et puis, vous voulez aussi demander ce que j'en pense sur le plan... Est-ce que c'est bien ? Parce que... Alors, écoutez, je pense que pour l'indemnisation, il est très important qu'il y ait des assurances. Et un patrimoine individuel ne peut pas réparer la réparation d'un dommage d'une certaine importance sur un patrimoine individuel. C'est totalement illusoire. Donc, je pense que le déclin de la responsabilité individuelle est dans l'ensemble une bonne chose en matière civile, à condition qu'il y ait aussi des garde-fous, comme je l'ai dit, qu'il y ait des possibilités de réprimer ou de prévenir les dommages. Donc d'autres mécanismes qui sont peut-être des dommages d'intérêt punitif ou une répression pénale. Mais je préférerais presque une répression civile à une répression pénale, car je pense qu'on a trop tendance actuellement à réprimer sur le plan pénal, et toutes ces infractions pénales sont très mal respectées, très mal observées, elles sont très mal poursuivies, et ce n'est peut-être pas une très bonne chose que le droit pénal se développe à ce point. Voilà pour la première question. Alors, la deuxième question, l'indemnisation des accidents médicaux, c'est ce que vous voulez. Alors, vous posez la question sous l'angle de la faute médicale. Alors, je suis tout à fait de votre avis, il est très difficile de prouver une faute médicale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faudrait sortir de ce système pour les accidents qui se produisent à l'occasion d'un acte médical. Et je pense ici, il y a d'ailleurs d'autres personnes qui le pensent également, qu'il faudrait instaurer un système d'indemnisation des accidents médicaux. Alors, vous savez qu'actuellement, il y a eu un rapport de l'IGAS sur ce problème. Et donc, il y aurait des projets, peut-être, du gouvernement sur la mise en place d'un système d'indemnisation des accidents. C'est effectivement, à mon avis, une nécessité. Et il faudra y venir. Pour les médecins, d'ailleurs, autant que pour les patients. Parce que les médecins, le système d'indemnisation de responsabilité pour faute n'est pas du tout confortable pour les médecins. Pas plus que pour les patients, et pour lesquels il est très inefficace.
Oui.
Donc, une question rapide ici, s'il vous plaît.
Oui, je voulais poser une question un peu plus philosophique. Vous avez beaucoup évoqué la responsabilité morale du côté civil et du côté pénal. Vous aviez même évoqué le droit naturel qui a introduit cette notion. Chez raconte aussi que l'homme est un être doté de conscience, donc d'un sens moral. Et j'ai l'impression, en écoutant votre exposé, qu'au fur et à mesure que le temps passe, on est en train de créer un système judiciaire aussi bien pénal que civil, tellement compliqué qu'on a enterré un tout petit peu la conscience individuelle de la responsabilité morale, à la fois des hommes politiques, par exemple, des hommes richissimes. C'est-à-dire que la loi et le droit sont devenus des substituts à la responsabilité individuelle du citoyen, qu'il soit riche, pauvre, malade, ou escroc, ou homme politique, au profit, pour les nommer, au profit d'un système qui est tellement complexe que le pauvre bougre ne peut jamais s'en sortir, et que celui qui dispose de votre savoir et d'un pouvoir par-dessus s'en tirera toujours. Mentionnant par exemple M. Dumas ou d'autres. Voilà, c'est une question un peu philosophique, parce que je crois qu'il y a une dérive vers trop de droit, trop de justice, et que la responsabilité dans la tête disparaît.
Merci, madame.
Alors, ce qui est vrai... Alors, il y a eu deux questions. Est-ce que je réponds ou deux? La première question sur... Enfin, c'était plutôt une constatation. Vous disiez...
Même avec preuve à l'appui, il n'y a absolument aucun doute que les médecins, je veux dire, connaissent leur impunité. Ça, il n'y a aucun doute. Dans de nombreux cas...
Ou alors lorsque la faute est démontrée, il est responsable.
Enfin, c'est tellement long. Oui. Ou alors c'est tellement long. Les réactions sont tellement longues.
Ah voilà, c'est vrai que
la justice n'est pas rendue.
Établir la responsabilité d'un médecin, c'est quelque chose de c'était vraiment le parcours du combattant pour une victime, c'est vrai, parce que il faut des expertises pour prouver la faute, pour prouver la causalité. Et là, c'est très difficile. Effectivement, il y a cet aspect-là.
Mais même avec preuve à l'appui. C'est jeté à la poubelle. Oui. Votre réclamation est jetée vraiment à la poubelle.
L'autre question qui a été posée, et qui est plutôt une constatation aussi, ce serait que la responsabilité civile et pénale se détache de la responsabilité morale, c'est vrai, ça c'était une constatation, mais c'est... également une constatation dans tous les autres domaines du droit. Il y a un détachement, une reconnaissance de l'autonomie du droit par rapport à la morale dans tous les domaines. Mais vous dites autre chose, alors c'est que les choses se compliquent, et ça c'est vrai aussi dans tous les domaines, les choses se compliquent de telle sorte que le citoyen est débordé, il ne peut plus avoir une lisibilité du système. Alors ça, je suis moins sûre que vous, parce que je pense qu'il y a tout de même un souci aujourd'hui de donner aux citoyens plus d'informations sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il a le droit d'obtenir. Et notamment, il y a aujourd'hui des associations de victimes qui peuvent être consultées. Et également, par exemple, dans la loi de 85 sur les accidents de la circulation, il est prévu que la victime peut être assistée d'un médecin, qu'on doit l'avertir de ses droits à tout moment. Et qu'elle, lorsqu'elle formule sa demande, elle est assistée. Donc je pense qu'il y a aussi un souci du législateur d'informer et de ne pas laisser la victime toute seule en face de la compagnie d'assurance, pour l'aspect civil, en tout cas.
Oui.
Le sentiment, alors vous voulez dire, le sentiment de la responsabilité est moins répandu, et ça, faudrait demander aux sociologues, aux psychologues. Alors, on dit souvent que le fait qu'on soit assuré vous déresponsabilise. Je n'en suis pas tellement sûre. Je pense que l'assurance est un acte de prévoyance, et donc que ça ne déresponsabilise pas nécessairement les gens.
Bonsoir, madame.
Une toute dernière, très brève.
J'ai écrit ma question. C'est pour appuyer le paradoxe souligné par Madame Enhaut. Pourquoi, alors qu'un citoyen il est libre, mais il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit, parce que sinon il y a la tôle après, hein, il est libre de voter, mais alors un élu, il est élu, il a l'immunité, c'est-à-dire en termes crus, qu'il est irresponsabilisé de ses actes, par son immunité. Alors, moi je vais vous dire une chose, je vais demander à certains élus extrêmes de me payer des indemnités pour leurs abus de pouvoir.
Merci, merci, merci.
Vous, j'ai le droit ou pas ?
Merci.